samedi 20 août.
On est à l'antenne. Ah oui, j'ai pas entendu l'émetteur bailler, d'accord, ok. C'est chaud.
Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 20 août. Non, le samedi 20 août, j'ai bien vérifié dans le calendrier et vous êtes sur Radio Éphémère.
Non, Xavier, là, c'est la nouvelle intro pour le mois prochain, quoi.
Là,
pour
la nouvelle saison. Bah, m'en fous, hein, dans le supplément week-end numéro
42.
Non, 38, hélas. C'est une spéciale H2G2, Guide du Routard Galactique, et nous aurons la destruction de la Terre en direct, en public et en exclu. Enfin, bon, par conséquent, les émissions suivantes sont définitivement annulées. 15h, y'a qu'à rouler, adieu le reggae. 17h, vie d'ordure, adieu les punks. 20h, la stétéro expérience, adieu l'électro. 21h30, Liquid Sky, adieu l'électro-disco. Hein,
Au revoir, tout le monde.
Au revoir, vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur...
42.
Non, sur 89,1 MHz.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Ouais, je croyais que c'était un peu long comme intro, finalement, tu vois, c'est tout juste. Ça passe bien. Aujourd'hui, c'est une spéciale Guide du Routard Galactique pour la sortie du film adapté, donc des romans de Douglas Adams. Ouais, on va s'éclater. Yobala.
Vos tentes serviettes, on lève bien ou les tentacules, c'est parti. Oui.
waffle, baby.
Yeah, you can play with me one time, baby.
Ah ouais, ça on jouera bien avec le président de la galaxie, un vieux single, hein, de Bootsy Collins, Play with Booty, avec Kelly Haley, une fille, donc celle qui fait les paroles derrière, qui est une fille dans le clip, elle est. Ah. Bon, voilà, oui, bah, normal, hein. Tant que président de la galaxie, il peut se permettre d'enlever des jolies. Après tout, pourquoi pas. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour Xavier.
On avait oublié de dire bonjour. Eh oui, ouais. C'est un supplément week-end, donc spécial guide du retard galactique. Et manque de bol, on n'est pas le numéro
42,
mais le numéro 38. Ça la fout mal, là. Peu de choses près, on s'est planté. Enfin bref, donc on va parler de ce roman qui est absolument cultissime, mais très underground. En France, il est très peu connu, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, et dans les milieux, c'est vrai, un peu bien formé comme l'informatique et tout. Tout le monde le connaît par cœur, le cite à l'envi. Tout simplement parce que dedans, il y a une question philosophique dont on aimerait bien savoir.
La question,
parce qu'on connaît la réponse, et la fameuse question sur la vie, l'univers et le reste. Et si vous posez la question, par exemple, à Google, même Google le sait. 42 Ça devient un peu lourd. Enfin, bref, donc on va parler en attendant un peu de bande dessinée, puis ensuite on va parler de cinéma, donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Et
on va parler aussi de télévision, mais sans du sport.
Ouais, ça va être un peu difficile, je pense, mais bref, on va bien s'éclater, parce que là, on l'a bien préparé. Merci aussi à aussi bien à ceux qui nous écoutent sur l'antenne de Radio FMR, sur les 89.1 sur Toulouse, et ceux qui nous écoutent sur donc le net, puisqu'il y en a quand même, donc je les salue bien bas.
Bonjour.
Hello. Bonjour. Enfin ouais. Bon, ceci dit...
Où as-tu mis ta serviette, Xavier?
Elle est dans mon sac et toujours à portée de main.
Ah bon, d'accord.
Et pourquoi? En fait, on va parler du guide du retard galactique en seconde partie de l'émission. On va parler de ça en chapitre. Quel est l'intérêt d'une serviette? Quel est l'intérêt d'une radio? Quel est l'intérêt d'un téléphone portable? Quel est l'intérêt d'un PDA? Et tout ça, et ben, tout ça, on va en discuter. Ce sera donc vraiment la très grosse partie de cette émission. Trois nuits sans dormir pour préparer celle-là. Je m'en souviendrai. Hein? Oui, comment ça, taré?
Oui, moi j'ai un peu plus dormi que toi.
Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ouais, mais toi, t'as.
Je suis pas le producteur de l'émission. Moi.
On va un peu arrêter cette engeance là, lutte des classes, débile. Oh. Passe à la bande dessinée. Alors, j'ai pas pris des trucs qui soient très 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 positifs, hein. Quand même, on va commencer avec Zone d'ombre.
Vends les biens.
Ouais, c'est bientôt la rentrée littéraire, hein, comme dit Zidane. Eh oui.
C'est la reprise.
Voilà. Et donc là, on essaie de maintenir le rythme. Donc, seulement deux BD cette semaine. Donc, cette bande dessinée est un import traduite en France par Delcourt dans une collection dédiée aux comics Contrebande qui n'apparaît plus vraiment sur la couverture, c'est un peu dommage. Donc sur un scénario de Glenn Brunswick, on retrouve au dessin John Romita Jr. s'il vous plaît, et Klaus Johnson. Et c'est l'histoire en fait... Non, c'est pas l'histoire, c'est l'histoire de vous, on va dire. Vous êtes à New York, vous êtes un agent des stupes complètement ripou, vous faites des livraisons de cam en gros pour la mafia, vous trompez votre femme avec une pute, et pour ça, le véritable ami, Patrick, un partenaire un peu boy scout que vous traitez de naïf. Mais vous avez roulé la mafia russe une fois de trop. Celle-ci se venge en butant devant vos yeux votre femme et votre enfant. Enfin, c'était pas voulu, mais en même temps, c'était pas l'envie qui leur en manquait. En vous vengeant, votre ami tombe dans le coma et vous, eh ben, vous vous faites tuer. Et vous n'y irez ni au paradis ni en enfer, mais dans une espèce de purgatoire encombré par les âmes en perdition. Et un espèce d'ange gardien, Jordan, vous propose un travail peu commun. Être de la garde grise. Une sorte de milice, je vais dire, où on essaie d'amener les gens un peu vers le côté clair, je vais dire, de l'histoire, plutôt que vers le côté obscur. Et votre arme, pour officier au sein de la garde grise, et ben figurez-vous que c'est pas vraiment vos compétences de combat, non, c'est plutôt votre cœur. Mais quand on n'en a pas, est-ce qu'il y a un espoir? Le dessin fait penser à du Andreas, vous savez, le dessinateur entre autres de Capricorne. Mais il est littéralement bourré d'erreurs de proportion. C'est-à-dire qu'on a des têtes largement plus grosses qu'elles devraient l'être pour le corps, etc. Pour un dessin qui se veut plus ou moins réaliste, c'est quand même un peu dommage. Par contre, l'ambiance est très 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 bien faite. Moi, j'ai été séduit par cette histoire semi-horrifique, assez étonnante et... Après tout, pourquoi pas? Surtout que donc au dessin, il y a John Romita Jr., c'est bien le fils de son père, c'est le cas de le dire, puisque là, vraiment, il est en train d'amener le dessin du comics plus vers la bande dessinée européenne que continuer dans tous les travers de la bande dessinée, je veux dire, de super-héros ou le côté mangaïsant tel qu'on l'a connu durant les années 90. En tout cas, c'est vraiment agréable. Il faut savoir un point assez amusant, c'est que le projet a été commencé chez Marvel sous l'autorité de Joe Quesada, qui était quand même l'un des grands scénaristes des années 80 et qui maintenant dirige la Marvel. Dans le label Epic, malheureusement, Marvel a changé de management et a dit finis ces bandes dessinées un peu d'auteurs, etc. Et ils ont même conseillé aux auteurs d'aller prendre leur BD et d'aller la proposer chez Image Comics, une boîte qui a été montée justement par des rebelles à Marvel. Donc c'est assez amusant et finalement, ben tant mieux, parce que je trouve qu'ils ont gagné un peu au niveau de ton, de narration. Ils auraient pu en faire une série sans fin. Là, c'est un one shot, c'est très bien foutu. C'est Zone d'ombre, donc chez Delcourt, scénario de Glenn Brunswick, qui donc pour un premier bouquin se montre vraiment intéressant. Dessin de John Romita Jr. et ancrage de Klaus Johnson, qui aurait mieux fait des fois de vérifier un peu les marques du maître.
Et en plus, à la fin, on trouve des images préparatoires assez sympathiques pour ceux qui s'intéressent à la genèse des bouquins et qui n'aiment pas forcément les images super léchées.
Ouais, c'est vrai que là, en plus d'avoir les couvertures donc des comics, on a droit effectivement pourquoi la couverture ils l'ont fait comme ci plutôt que comme ça, etc. Ouais. C'est pas inintéressant.
Dis-moi, Xavier.
Ouais.
Cette page là.
Ouais. Laquelle? Ouais. Ouais.
Ce clone de Brad Pitt à la tête coupée.
Ouais.
Tu l'as fait exprès?
Ah non, même non. Pas. Ah, même pas, même pas. Même pas. Mais en plus, je crois qu'il s'en explique au bout d'un moment pourquoi il a.
En fait, c'est une. Pour ceux qui ne suivent pas nos amis auditeurs, oui, ça fait un peu penser à une séquence du film que vous verrez si vous y allez.
Ou voilà. Si vous connaissez le roman, vous voyez de quoi il a question. Enfin, bon, c'est assez étonnant, mais je crois qu'il explique au bout d'un moment, mais là, c'est pas le moment pour en parler. Donc, pourquoi il l'a pris? On reste toujours aux éditions Delcourt, mais avec une bande dessinée purement française, je vais dire, et même qui se passe en France. Une France, je vais dire, un peu pervertie, puisqu'on est dans un futur proche, pas vraiment cyberpunk, plutôt d'anticipation. C'est sur un scénario de Mathieu Gabella, dessin de MMA et des couleurs de loup. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Le premier tome de la série Idole s'appelle « Pour toi, public ». Je veux dire que donner comme titre à une BD le nom d'un spectacle de Franck Dubosc, ben, c'est un signe de mauvais augure.
Pour toi, public.
En général, ça fait plutôt peur. Eh ben non, pas du tout. En nom et tort, c'est même plutôt, pour moi, vraiment la bonne pioche chez le libraire de ce côté-là. Puisque ça se passe donc dans un futur proche, la France suit les security shows où les super flics arrêtent les délinquants en direct et en prime time. Enfin, les arrêtent. En général, ils sont un peu morts. Par exemple, il y a le vétéran sur la première chaîne qui jouit de la chance fabuleuse de ne jamais être touché par une seule balle. Mais ce héros, entre guillemets, pour lui, la situation commence à lui peser. Il a envie de mourir, mais il a tellement de chance qu'il se loupe, même en se suicidant.
C'est Navarro ?
Ah, tu le verras, c'est assez étonnant, mais en tout cas, il est plus vif que Navarro. Bon, faut dire aussi que le vétéran, il a un peu bavuré sur le dernier président de la 5ème République. Depuis, les instances ont provisoirement suspendu la démocratie directe afin de restaurer la sécurité en France. Et leur dernière invention, c'est de créer en vrai des super-héros. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade du laboratoire, mais on va en faire un autre security show. Résultat, vous prenez dans un huis clos un laboratoire qui ressemble un peu à la zone 51, Forbidden Zone, excusez-moi, de Mo et CDM. Vous prenez un singe télépathe, un gamin transparent qui ne supporte pas la lumière, un homme qui n'est que l'ombre de lui-même, un monstre qui rêve de devenir femme, et une équipe de savants désabusés devant le cynisme de la situation. Bref, un objet bizarroïde, une situation prête à exploser à tout moment, où chacun fait croire que tout est sous contrôle. Au rayon des mauvaises nouvelles pour cet album, le dessin qui ressemble à Geoff Darrow, vous savez, le dessinateur de Hard Boy, Bourbon Street, Big Guy and Rusty, The Robot Boy, et qui a réalisé aussi les storyboards de Matrix. Je veux dire que ça ressemble à Geoff Darrow par son côté hyper détaillé, mais sans avoir le niveau de précision du maître. Bon, c'est normal, hein, ça arrive pas de suite. Mais bon, des fois, ça donne des pâtés un peu bizarres, mais comme Bac à Sable, ce premier album est plutôt une réussite.
Hein. Je te taxe.
Ah, merci. Mathieu Gabella au scénario, dessin de Emelé, Idole, le premier tome s'appelle plus Pour toi, public. C'est chez Delcourt dans la collection Néopolis. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque je crois qu'on va encore parler, encore une fois, de manipulation, d'arrêt, d'état policier.
Oui, peut-être.
Hein ? Un état policier. Hein ? Pardon, excusez-moi.
Vous avez vos papiers ?
Enchaîne.
On va enchaîner avec les petites sorties de la rentrée en matière de cinéma. Et bah, d'ailleurs, avec ce film, on a le temps de voir venir, puisqu'il a été reporté en mars alors qu'il devait sortir en novembre. Il s'agit de V for Vendetta. Le film qui a valu à Nathalie Portman de se balader à Cannes avec le crâne rasé, vous savez.
Alors c'est... moi, ça me dit rien, mais V pour Vendetta, ça me dit quelque chose. Aha. Et c'était pas dans la bande-annonce.
Et c'est peut-être adapté d'une BD.
Ah oui, une BD de Alan Moore.
Peut-être.
Et une BD qui se passe en Angleterre.
Aha. Ah, science-fiction en Angleterre. Ah. Mmh. C'est un film de James McTighe.
Excusez-moi. On s'en fout du réalisateur.
Ouais, c'est produit par Joel Silver et les
Buda, frères Buda Silver en général.
Ouais, boum. et les frères Wachowski, donc c'est vrai qu'on on retrouve.
Et les frères, je me masturbe beaucoup le cerveau.
un bullet time. Et oui, donc on retrouve pas mal l'équipe de Matrix, surtout qu'on retrouve aussi au casting Hugo Weaving qui jouait l'agent Smith. On croit reconnaître d'ailleurs, si vous voyez le trailer sur le net, quelques plans, quelques chutes des plans de flics du premier Matrix. C'est assez surprenant. Et aussi.
Je vais dire, c'est justement ça qui est le plus inquiétant. Hein, mais bon.
Ouais. Et. Il y a aussi un petit clin d'œil assez sympathique. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire dans le film, mais il y a John Hurt. Et rappelons-le, il jouait dans l'adaptation cinéma de 1984, le bouquin de George Orwell.
Qui est sorti en 1984 et qui était très inquiétant. La réalisation était vraiment superbe. Donc là, on se dit, mais c'est une parenté.
Peut-être.
Et oui, V pour Vendetta. George Orwell aussi décrivait l'Angleterre.
L'aurait-on fait exprès ?
Ouais, mais bon, c'est une référence pour les cinéphiles, et qui plus est, ça a l'air d'être un film qui est prévu pour les adolescents, et on parle de cinéphilie pure et dure quand même, parce que 1984, qui s'en souvient encore aux États-Unis. Je rappelle les scores d'audience de Fox News. Non, même pas besoin. Allez.
Allez, on va enchaîner avec les autres films qui nous permettront de patienter avant ce V for Vendetta.
Patienter, enfin, on attendra de voir.
Ouais, donc on a d'abord Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-wook, le réalisateur coréen, qui va sortir autour du 21 septembre d'ailleurs. Et ça, c'est l'occasion d'ailleurs pour le réalisateur coréen de clore sa trilogie sur la vengeance après avoir réalisé Sympathy for Mr. Vengeance et le film primé à Cannes, Old Boy, voilà, et ça nous permettra d'ailleurs de parler de cette petite trilogie macabre en septembre, justement. Ensuite, notre film, d'ailleurs, qui vaudra le détour, c'est Night Watch. Je pense que tu as vu la bande-annonce au cinéma, comme moi, Xavier. Night Watch, le film russe avec des chauves-souris. Ouais, donc c'est un film russe. Je vais citer le réalisateur quand même, de Timur Bekmambetov. Alors celui-là, j'ai pas répété, ouf. il faut savoir que c'était l'ex-assistant de Roger Corman. Pardon.
Là t'es dur.
Et donc ce film verra l'affrontement séculaire entre le bien et le mal, reposant sur un équilibre depuis plus d'un millénaire. Mais un agent d'un camp va passer à l'ennemi et rompre ainsi l'équilibre.
C'est marrant parce que la bande annonce, quand je l'ai vue, moi ça m'a fait penser à une chose.
Ouais, vas-y.
Ouais, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure.
Bad Matrix, peut-être.
ouais, pas qu'un peu.
Imaginez Matrix remixé avec du Highlander, ça donne tout à fait l'esprit du trailer. Et il faut savoir que c'est le premier volet d'une trilogie. Et puis, c'est vrai que le trailer nous en met.
Volet d'une trilogie, c'était ça qui m'avait foutu le déclic, oui, je me souviens.
Ça, en tout cas, l'abondance nous en fout plein les mirettes. Il faut voir ce que ça donne sur le long métrage.
À mon avis, ça doit sonner creux.
Un autre film qui fera peut-être l'objet d'une spéciale, faut que j'en parle avec le père Xavier, c'est Aeon Flux de Karin Kusama, la natation justement au cinéma en film live de la série culte de Peter Chung qui avait été diffusée sur MTV avec Charlize Theron. Alors là ça cloche par contre. Pourquoi ils ont choisi Charlize Theron, blonde sud-africaine
À mon avis, c'est la production, parce que c'est MTV.
Eh, peut-être. Alors, le film sort le 5 octobre, mais moi, j'aurais plus vu dans le casting quelqu'un comme Carrie-Anne Moss. Oh, bah merde, on retrouve toujours dans Matrix, fait chier.
J'ai l'impression que tu tournes un peu en rond, Thomas. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas, je sais pas.
Ou Famke Janssen, peut-être. Famke Janssen dans le casting. Phoenix dans X-Men, dans les deux X-Men, ça aurait de la gueule ça par contre. Plutôt que Charlize Theron là, toute mignonne avec assez joufflu.
Ouais, je me demande si vraiment ça vaut la peine de comparer, je vais dire, l'œuvre de Peter Chung à justement tous ces trucs de super-héros. Je pense pas vraiment.
Bah, je pense que les producteurs ils ont vu qu'une série de super-héros avec un univers futuriste
Et qui marche bien et que les jeunes ont l'air d'accrocher parce que c'est passé sur MTV.
Ouais, youpi.
Youpi, ya, ya, youpi, youpi.
Ah, c'est vrai qu'on est. On est vraiment loin de l'univers pervers et trash de la série, mais bon, on demande qu'à voir. Notre film, on s'éloigne un peu de la SF.
Attends, je vais changer d'ambiance.
On va respirer un petit peu.
Hein, hop, zou.
Allez, monte le fond là.
Allez, vas-y.
Voilà, là, on s'éloigne un peu de la SF avec le nouveau film de Terry Gilliam.
Aïe, yeah.
Les frères Grimm.
Ouais, c'est super positif comme bouquin.
Ouais, qui sortira autour de le 5 octobre. Avec dans le casting Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce, donc l'acteur de Brésil qui retrouve son réalisateur Terry Gilliam, et Monica Bellucci. Voilà.
Alors, une chose à savoir, c'est que de ce que j'ai lu, le film, en fait, c'est parce que il était en plan depuis un bail avec les producteurs, d'après ce que j'ai compris. Parce que Hollywood, évidemment, voulait faire des test screening, c'est-à-dire on prend du public vraiment moyen de chez moyen. Voilà. C'est-à-dire bas de panier et.
On les fait voir.
Ça vous plaît pas.
Voilà, on le fait voir le film et puis mettre des notes et puis répondre à un questionnaire. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le plus détesté? Etc. Quelle note attribueriez-vous au film?
Et du coup, on refait le montage du film jusqu'à ce que l'on ait une note à peu près moyenne.
Voilà. Tu sais comment on appelle ce casting ou ce groupe formé pour assister au screening test?
Laisse-moi deviner, un quart de collégienne.
Non, ça s'appelle un focus group. Et les réalisateurs hollywoodiens ont l'habitude de l'appeler le focus group. Voilà, donc c'est le nouveau film de Terry Gilliam qui sortira le 5 octobre.
Justement, il a zappé l'étape Focus Group grâce au film suivant qui va sortir, je crois, en même temps. Hein.
L'autre film de Terry Gilliam.
Ouais.
Ouais, mais ça, j'en ai pas parlé là et je sais plus comment il s'appelle. Je sais que c'est un road movie, mais beaucoup plus simple et pas du tout Heroic Fantasy pour un sou. Voilà. Notre film qui fera peut-être l'objet d'une spéciale également, mais ça je vous en ai déjà parlé parce qu'il était à Cannes, c'est History of Violence de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, tout droit débarqué du Seigneur des Anneaux, sortira le 2 novembre. Voilà, on salue toujours le nouveau film de Cronenberg. C'est vrai qu'il a abandonné le cinéma fantastique depuis Belle Lurette.
Je croyais qu'il avait abandonné le cinéma.
Non, depuis Existence. il avait fait Spider qui n'avait pas totalement convaincu. On va voir si c'est le grand retour du maître de la chair au cinéma.
Ouais, change d'ambiance ou...
Ouais.
Oh, attends.
Dis-moi, Xavier.
Oui, c'est que je retrouvais pas le CD, c'était con.
Si je te dis que je vais parler là d'un film qui va sortir le 16 novembre, ouais. Et qui est l'adaptation d'un jeu vidéo qui est si célèbre qu'il a donné son nom à un genre. À quoi tu penses?
Tetris?
Non. Non.
Pac-Man.
Ah non. C'est un jeu vidéo qui a donné son nom à un genre. On appelle un X-like. Un Doom-like, Doom au cinéma.
Ah oh non, truc où il faut buter de l'alien parce que le sang vert c'est mieux que le sang rouge de Castle Wolfenstein.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Hein.
Ouais.
Parce que tu connais l'histoire.
Wolfenstein 3D.
Wolfenstein 3D puisque Castle Wolfenstein en fait c'était un jeu en 2D et donc il y a eu le jeu Wolfenstein 3D qui était le premier jeu de tir comme ça et qui a été censuré aux États-Unis parce que le sang était rouge.
Oh là là, quelle horreur. Et donc là le réalisateur de Doom c'est Andrzej Bartkowiak. C'est un excellent réalisateur. Il avait fait Roméo doit mourir avec Jet Li.
Excuse-moi, ça m'a échappé.
Oui, c'était pour la blague. Et donc, on retrouve dans le casting des héros, enfin des personnages qui ont l'habitude de jouer dans des films d'auteur. Donc, on a The Rock pour buter des aliens. Et on a Carl Urban qui avait joué aussi et Homer dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, le film sort le 16 novembre. Alors, la bande-annonce circule également sur le net, mais n'en montre pas trop en fait sur l'état des monstres, mais pour pas qu'on voit tout de suite que c'est Resident Evil 3. Mais par contre, ce qu'on peut voir là où ils ont été fidèles dans le jeu, par rapport au jeu vidéo, c'est que les armes sont les mêmes. Par contre, elles font le même bruit, le même laser, etc. Donc,
ça veut dire tout simplement qu'ils ont fait des économies sur les effets sonores.
Ouais, ouais.
Excusez-moi, mais c'est méchant, mais que voulez-vous?
Ouais, c'est très méchant. Et on va ensuite enchaîner avec un autre film fantastique, mais ça, c'est dans tout autre genre. Par contre, c'est Cars, le retour aux affaires de John Lasseter, le fondateur du studio Pixar, qui revient à la réalisation après Toy Story.
T'es au courant que Pixar est en deuil, puisque l'un de leurs créateurs et metteurs en scène favoris est décédé.
Ah non, j'étais pas au courant.
D'un accident de voiture, justement.
Ah bon?
Donc, l'ennui, c'est que j'ai pas retenu le nom, j'ai vu l'info sur.
Il avait fait quoi, lui?
Je crois que c'est Toy Story.
Ah non, le réalisateur de Toy Story, c'est John Lasseter. Alors, c'est peut-être lui qui est mort. Lui qui est mort?
Ouais, je crois, ouais.
Ben, c'est une info à vérifier, on vous en dira plus pour la prochaine émission, par contre.
Faudrait que je vérifie, mais là, c'est un peu compliqué pendant le direct.
Voilà, le film Cars sort le 30 novembre, en tout cas, et il méritera quand même le détour. Dernier film.
Mais c'est le dernier film qui dit que Buena Vista,
Disney, va distribuer.
Et après, il y aura un créateur à la pomme qui fait allez, Mike Eisner, tiens, goûte ça.
Il s'agit de Steve Jobs.
Voilà.
Dernier film de cette chronique concernant les films de la rentrée, il s'agit de Lord of War. Donc je t'ai montré l'affiche justement cette semaine. Le film d'Andrew Niccol qui était le réalisateur de Bienvenue à Gattaca, l'excellent film de SF d'anticipation, et de Simone avec Al Pacino et accessoirement scénariste de Truman Show. Alors
c'est vrai qu'il faut dire que déjà tu fais bien de dire un peu ce que c'est comme film, donc déjà ça met l'ambiance, mais je peux vous dire que rien que l'affiche ça fout les jetons.
Ah ouais, c'est l'affiche, c'est le visage de Nicolas Cage créé par des douilles, les douilles de balles qui forment un visage.
C'est comme... même pas des douilles, hein. c'est des balles.
Ouais, des balles, ouais.
Ah ouais, c'est... Enfin, je comprends que ça a fait peur aux producteurs américains.
Ah, c'est sûr que quand tu le vois de loin, on dirait qu'il s'est fait cramer la gueule à la bombe nucléaire, c'est assez bizarre. Et donc le film, ça raconte l'histoire d'un personnage interprété par Nicolas Cage qui est contrebandier d'armes. Donc on comprend bien pourquoi le sujet a été polémique et pourquoi le film s'est vu refuser tous les financements par les majors américaines. Et justement, le film existe parce qu'il a reçu de l'argent provenant d'Afrique et de France.
Voilà. Comme quoi.
Et comme quoi. Donc dans le casting, on retrouve évidemment Nicolas Cage, mais à ses côtés Jared Leto, Ethan Hawke, qui était déjà dans Bienvenue à Gattaca, et Ian Holm. La sortie en France est prévue pour le 21 décembre.
Bah tant mieux.
Et voilà.
Et tu as fini.
C'est tout ce
qu'on
pouvait dire sur les films de la rentrée. Peut-être que vous serez déçus parce que je n'aurais pas parlé d'autres films, mais ça c'est votre problème.
On va sortir bien aimé.
Ah ouais, merde, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Oh là 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 là.
Ouais, je crois pas que ça soit une bonne idée de ne pas l'avoir oublié. Bon allez, le morceau suivant que je passe, c'est une rareté absolue. Il s'agit de Digitech Stellar Superstar. Je prends 30 secondes pour en parler, tout simplement parce qu'il a été mis sur le net, sur Audio Galaxy. Audio Galaxy actuellement, c'est un site de vente en ligne de morceaux. Avant, c'était un réseau de peer-to-peer, et avant ça, c'était ce qu'on appelle un dépôt, c'est-à-dire c'est là où les artistes qui voulaient se faire connaître, ou les artistes qui étaient en train de mettre leur nouvel album, mettaient en exclu leurs morceaux, et on pouvait télécharger. Donc il y avait ce morceau de Digitech Stellar Superstar qui est à ma connaissance seul morceau qu'ils ont fait, et c'est bien dommage. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pris 4 morceaux électro. Pour moi c'est assez particulier, puisque ça me rappelle, je fais un clin d'œil à Doc Livingstone, à toutes ces matinées qu'on a fait à cette antenne, à faire la revue de presse en mix de 8h à 10h en quotidienne. C'était absolument monstrueux, et c'est vraiment l'ambiance que l'on avait à l'antenne. Et puis voilà, et c'est surtout pour les 30 dernières secondes du morceau. The final annihilation of the life form known as man. Let the attack begin. Let's
It's me, the fucking Lone Ranger. All you sucker MCs are in a world of danger. Not all alone, I got my DJ right behind me. Drop your mic, you can't step to deep. Follow my flow. In these dope beats, I got a new story. Better find your SSC and listen to what I got to say. It's all about the shimmer down. The other day, I was an alien man in the far off place. Or what you call it? Yeah, outer space. We was cruising in the starship to the planet acid. About an hour trip, we're on our way to tear up your show. You never heard of us? Well, now you know that we ain't here to fuck around. We're right up in your chest with this funky sound. Look, you found it. The last MC to us, but you just conk up on it. Ask him with some hip hop bass. You're better than us, we didn't come here to win. We came to destroy, you're sounding your game. So you better beware when you hear our name. Cause we're the alien men and can flow like no others. Kick your ass through a clear, go cry to your mothers. Can't find your mom cause she's in our ship. My DJ took her in there to give her a dip. Not just rappers, we're a couple of pimps. The rest of you suckers sound like a bunch of gimps. Take out these fucking humans on the planet Earth. We'll save some of your mothers for our baby's birth. A new planet for our alien people is the plan. What makes a better meal than a lurking better man? What you gonna do, try to match me? You must have forgot, you can't step to thee. You can't take us to the level that we can. Don't forget we're stellar superstars, you're only a man. To come strong and burst the planet a bubble. This planet is strange and unfamiliar to us. It doesn't really matter, it's on the mic, I'll bust. Coming fresh with the galactic style, the kind of sound that make you bob your head and smile. So listen real close to what my DJ's about to do. Cutting records so sweetly, it will amaze you. The strength coming at you with my lethal lyricism. I'll cut your ass to pieces like light through a prism. Out the ship with these galactic tactics, cause we got the freshest style and we'll back this up. And then I'm taking you down, cause we got on our crown. So you better bow down when we invade your ship. We'll rumble it down with these fat ass beats that's bumping our sound. Now you know what we're about to do as we rock this party. DJ Ray and MC Pew.
Écoute bien cette montée, je l'adore. Wow.
Ouais, en fait, la fin de ce morceau, c'est un sample. Enfin, c'est il y a quatre morceaux qui sont bidouillés, qui sont dedans, et la fin, en fait, c'était le générique, l'un des génériques qu'on a utilisé avec Doc Livingstone, donc pour cette émission qui s'appelait Pyjama Big Goody, c'était en 99. Et là, je m'étais bien éclaté, une revue de presse de 2 heures en quotidienne, complètement délirante. Moi, je préparais en même temps le concours d'entrée à l'école journaliste, donc j'avais un boulot monstrueux. Lui, il faisait les ciné-concerts à la Cinémathèque de Toulouse pour Point Natura avec DJ Peyo, alias Discoid, qui n'est pas là cette semaine, mais qui fait normalement les samedis soirs le mix. C'était donc vraiment de l'électronique purement expérimentale, et à chaque fois on s'éclatait et on se disait à chaque fois est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin parce que c'était limite hein, certaines fois ce qu'on faisait. Et puis 2 mois après avoir arrêté, je suis tombé sur la directrice du CTR, que je salue. Le CTR, c'est la délégation régionale du CSA en charge des radios, et qui m'a gentiment dit: c'est dommage, vous ayez arrêté, moi je vous écoutais tous les matins, j'aimais bien. Et là, tout d'un coup, t'as comme une grosse sueur qui passe sur le côté. Tu te dis, heureusement que j'ai ma serviette sous la main pour m'essuyer, parce que c'est pas très bon. On va donc parler du Guide du Routard Galactique, du film adapté donc du roman de Douglas Adams, enfin plus exactement de l'univers, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas qu'un roman, il y a plein de choses autour qu'il a faites, et au départ il y avait une émission de radio qu'il a faite sur la BBC. Donc Thomas, est-ce que tu peux dire un peu... On va éviter de parler en fait de ce qu'il y a dans le film, on va parler uniquement des acteurs, de qui il y a dedans, qui en est le réalisateur.
Eh ben, il s'agit du premier film de Garth Jennings qui nous vient de la pub et des clips. Donc on va, ben voilà, il a mis en scène Martin Freeman, qui est un acteur britannique qui avait joué dans Love Actually de Richard Curtis, mais il n'avait pas vraiment de gros blockbusters à
son actif. Ouais, c'est ouais. Plutôt le premier. Hein.
Voilà. Dans le rôle de Ford, on a Mos Def. Zoé Deschanel qui joue la délicieuse Trillianne, qui t'a fait triper apparemment.
Ah oui.
Nous avons l'un des grands, des deux seuls acteurs vraiment connus du film, c'est Sam Rockwell qui avait joué.
Et
dans...
Mos Def.
Ah bon, je connais pas Mos Def, c'est qui?
Bon d'accord, ok.
Sam Rockwell, il avait joué dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux.
Il n'y a, pas un autre acteur qui porte le nom d'un film dedans?
Ah, vas-y.
John Malkovich.
Ah oui. Mais attends, j'y allais y venir. Et oui, John Malkovich qui fait une apparition assez savoureuse en gourou religieux. Et d'ailleurs,
énorme.
Et d'ailleurs, qui joue ce rôle à la demande express justement de Douglas Adams du temps de son vivant. Et également, on a un acteur également connu, mais ça c'est uniquement en VO, c'est Alan Rickman qui prête sa voix au robot paranoïde et dépressif Marvin. Et qui c'est qui est derrière la coquille du robot? Ben, c'est Warwick Davis. Peut-être que le nom vous dira quelque chose, c'est lui qui interprétait Willow.
Eh oui.
Dans le film de Ron Howard.
Comme quoi, on est vraiment sur un état qui est assez étonnant. Donc, pour en revenir, parce que là, vous avez eu les détails techniques qui sont faits par le chroniqueur qui ne connaît pas l'univers au départ.
Si, je le connais maintenant, parce que
je t'ai passé la bio, et c'est ça qui est terrible, c'est que je t'ai passé la bio, mais tu connais pas encore le roman lui-même.
Non, j'ai pas lu, non,
voilà. Donc, on va y venir, effectivement, à tout cet univers qui a énormément marqué Internet, il faut le savoir. Énormément célèbre aussi en Angleterre et aux États-Unis, mais en France, le film est sorti en plein été. Et je remercie Alex Masson d'avoir bu un kawa avec moi, qui est un ancien éphémère et qui maintenant officie sur Nova et dans les Inrocks. Je crois qu'il est toujours aux Inrocuptibles.
Il t'a dit non la dernière fois.
Oui, exact. Pardon. Pardon. Donc tout ça pour dire que Alex disait le distributeur français se disait mais comment on va vendre ce film? Comment on va vendre? C'est un truc, c'est totalement inconnu. Le bouquin a changé un nombre incalculable de noms en France. Ça va faire l'objet d'une des rubriques de cette émission. Bref, c'est quelque chose qui est complètement à part dans la galaxie. Et pourtant, le Guide du Routard Galactique. Il y a des personnages dedans, mais le personnage principal, c'est un livre. Ça peut paraître assez étonnant, mais je sais pas comment le raconter.
Donc le film vous parle de l'histoire d'un livre.
Le Guide du Routard Galactique, c'est ni plus ni moins que le livre de poche électronique décrit en 78. L'idée étant de ne pas avoir à trimballer les 10 000 guides indispensables d'un bout à l'autre de la Voie Lactée. Et afin de vous aider à sortir d'une situation gênante, sur la couverture est écrite cette phrase en grandes lettres amicales. Pas de panique, tout va bien. Concept amusant et poilant, c'est la première fois qu'on y décrit un PDA. Hein, vous savez, les assistants palmaires, les assistants qui tiennent dans la main. Avec un système hypertexte. Bon, hypertexte, c'est le web. Hein, mais tout ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Le PDA est arrivé en 95, 96, non même pas 92, avec le Newton. Et le web est arrivé, voilà, quand le web est arrivé, c'est-à-dire créé en 90. Et là, on en parle en 78, dans une émission radiophonique sur la BBC. Bref, le guide du voyageur galactique, c'est un truc extrêmement utile pour l'emporter n'importe où, en voyage... ou pourquoi pas dans le métro allant d'un bout à l'autre de la Voie Lactée pour le consulter ou pourquoi pas jouer avec non Thomas hein, je fais pas de pub pour la console de jeu hein.
Attends elle sort quand en fait
1er septembre
t'es payé combien par Sony
3 cacahuètes enfin bon bref le concept du guide du Routard Galactique il y a d'abord cette voix narratrice qui a été créée dans la première personnification du guide, c'est-à-dire en radio. Ensuite, les animations qui ont été faites pour la série télé en elle-même, quoi qu'il y a déjà des descriptions qui sont faites narrativement à la radio et dans le bouquin, mais à la télévision, donc ils vont faire ces espèces de grandes planches très simplifiées. On dirait aujourd'hui que c'est fait sous Illustrator, mais à l'époque, c'était tellement révolutionnaire que les journalistes du vénéré magazine informatique Byte se sont laissés prendre et ont vraiment cru que c'était un ordinateur qui générait ces images. Et évidemment, tout le monde s'est foutu de leur gueule, à tel point que quand on donnait l'adresse d'un crétin absolu dans la série télé, on a mis l'adresse du magazine en question dans la série. C'est dire franchement où c'est que ça en est. Bref, c'est quelque chose de complètement décomplexé. Bref, je vais vous faire un spoiler, parce qu'on n'en parle pas dans le film. C'est qu'est-ce qui a marqué à la Terre. À l'article Terre, le guide du voyageur galactique dit inoffensive. Mais dans l'histoire, justement, Ford a été envoyé sur Terre par la rédaction du guide afin de mettre à jour cet article, qui entre nous, est un peu bref. Donc, selon certaines sources autorisées, la prochaine édition du H2G2 mettrait à jour cette entrée pour Terre, globalement inoffensive.
Ah, ben ça va mieux déjà.
Ah oui, c'est bon. Par contre, certains sujets de société sont beaucoup plus remplis. Par exemple, si on ouvre le guide du retard galactique et qu'on lui demande les bandes-annonces...
Bandes-annonces. Les bandes-annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable...
Arthur ! C'est quoi tous ces machins-là ?
...qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet.
Attention, peuple de la Terre, nous avons prévu de détruire votre planète.
Accroche-toi, on s'arrache d'ici en stop !
Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « Un monde dans lequel... » Mais pas toujours. La bande-annonce est généralement commentée par
une voix grave. La voix d'un homme de 2m15 qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance.
L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante.
Quel panard !
Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Entrecoupées d'apparitions de jolies filles en bikini.
À moi, ça ne me fait absolument aucun effet.
En général, la bande-annonce nous montre aussi des méchants sans foi ni loi, des créatures hideuses, des dauphins, de la violence physique. Et bien entendu, la promesse d'un amour véritable.
Ah, mon Dieu.
Et pour finir, il y a le montage final. Souvent rythmé par une musique rock.
Allez-y, quoi, merdez !
Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film de la manière suivante.
H2G2, le guide du voyageur galactique.
Suivi de la date de sortie, qui permet aux spectateurs de s'organiser en fonction plusieurs mois à l'avance.
Non, Xavier, là, tu l'as passé la semaine dernière déjà.
Ce gag ouais. Ouais, mais je m'en lasse pas. Et puis tu m'avais un peu surpris. Enfin, oui, bon, voilà.
C'est le comique de répétition aussi, hein.
Ouais, tu crois qu'ils ont compris le gag qu'on a fait en intro s'ils n'ont pas écouté l'émission précédente non plus.
Non,
ça va. Enfin, bref, le guide du retard galactique, là, vous avez vraiment un personnage qui apparaît à l'écran, qui est très bien réalisé et, en mon sens, on va y venir quand on va parler justement de l'adaptation, si elle est bien, si elle est pas bien. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve vraiment satisfaisante. Et dès la bande-annonce, en fait, on est jeté dedans parce qu'il détruit ce concept même de bande-annonce et c'est assez jouissif. Alors... À vrai dire, on y est allé mercredi dernier. Et ceux qui n'ont pas vu le film se sont bien marrés. Ceux qui connaissent pas l'univers sont bien marrés. Alors ceux qui connaissent, je vous dis pas comment c'est poilé. Parce que c'est pas qu'un roman, c'est carrément un univers. Alors les différentes versions. Figurez-vous qu'il y a une série radiophonique qui a été écrite par Douglas Adams, je vais dire, au jour le jour, dans la bio de Neil Gaiman, dont on se réfère pas mal d'ailleurs dans cette émission, il n'y a pas de panique, on nous explique que la deuxième saison, elle est carrément écrite pendant que les acteurs...
Pendant qu'ils mixaient.
Donc c'est carrément débile, bref. la série radio de la BBC qui a été diffusée en catimini et qui a eu tout de suite un succès incroyable par le bouche à oreille. Les romans qui sont sortis, donc une trilogie en 5 volumes, cherchez pas à comprendre, hein, avec Douglas Adams, il n'y a pas d'explication. Donc, les 5 romans en question, il y a Le Guide Galactique, H2G2, Le Dernier Restaurant avant la fin du monde, La Vie, l'Univers et le Reste, Salut et encore merci pour tout le poisson, et globalement Inoffensive. De tous les éléments qu'il y a dans le film, la seule chose dont il n'est pas question, c'est globalement Inoffensive. Alors, comme on dit que le film va être une trilogie, on s'attend à 5 films. Donc pourquoi pas après tout. Bref, il y a eu aussi une série télé qui a été faite, je crois, en 2 saisons, si je ne me trompe.
Oui, exactement.
Voilà, par Douglas Adams. Mais c'est une série télé, je veux dire, avec les moyens du bord. Hein. La BBC n'est pas une chaîne américaine, a des moyens, mais quand même pas tant. Et puis dans les années 80, voilà quoi, c'était, on va dire, c'était vraiment cheap quoi. Un jeu d'aventure sur ordinateur, on va pas insister plus, hein, une adaptation sur ordinateur avec les cartes vidéo de l'époque, hein, ça devait être particulièrement cheap.
Il s'est bien amusé à l'écrire, par contre, c'est ça qui est dit dans la biographie.
Douglas Adams, c'était un gros allumé de l'informatique, j'y viendrai plus tard, mais ouais. Il faut savoir que c'est quelqu'un justement qui s'est passionné à l'informatique parce qu'il a décrit ce concept, et il s'est dit mais qu'est-ce qu'il en est réellement, et il en est venu. Bref, ça on y viendra, et on comprendrait pourquoi la série a eu un énorme impact en général sur l'informatique. Et il y a eu aussi une bande dessinée qui a été faite aux États-Unis, un comics
renié par son auteur.
Renié par le créateur.
Oui, par le créateur, oui, bon, l'auteur.
Donc c'est malheureusement, encore une fois, la preuve que ça n'est absolument pas évident de faire comme ça une adaptation en soi. Bref. Mais avant de comprendre justement.
Il y a eu la pièce de théâtre.
Oui, exact, oui. Pardon, j'ai complètement zappé ça, une pièce de théâtre. Je ne sais plus de qui, d'ailleurs.
Il y en a eu plusieurs, en fait.
Qui a été adapté parce que lui, en fait, il vient de Oxford, puisqu'il a rencontré les Monty Python, là-bas, quand ils étaient en train de former leurs troupes. Il a vu ensuite démarrer à la télé John Cleese dans plusieurs petites émissions. Et puis ensuite, il y a eu donc le Monty Python Flying Circus. Quelque chose de totalement différent. Il est arrivé sur la dernière saison où il a plus ou moins participé.
Il a fait des apparitions dans les épisodes.
Voilà, et après, il y a eu des adaptations théâtrales d'étudiants d'Oxford qui ont regardé ça de loin, hein, je vais dire. s'ils veulent, hein, ça les amuse, mais moi, pas du tout. Enfin, bref, pour en revenir à tout ça, le Guide du Retard Galactique, il faut peut-être expliquer ce qu'est vraiment la télé et la radio publique anglaise, la BBC. Et puis voilà. Ah, la BBC. Ouais, moi j'en suis fan quoi.
Arrête de baver, s'il te plaît.
Hein ?
Arrête de baver.
Ouais, en même temps, tu sais, c'est pas évident quoi. La BBC, c'est se dire le niveau de qualité qu'ils ont obtenu et tout. Mais faut dire aussi que la BBC est une entreprise qui existe depuis les années 20 et qui a réussi, à passer à travers le temps sans avoir renié son âme. Plus exactement, une fois qu'ils ont trouvé leur âme, ils n'ont pas bougé et là-dessus, ils sont très forts. Faut dire que l'entreprise publique de radio-télévision britannique est en soi une institution qui, à la différence de ses homologues françaises, italiennes et espagnoles, Eh ben, c'est une institution qui est totalement indépendante du pouvoir en place, et ça, tout le monde ne peut pas en dire autant. Preuve ultime d'indépendance, ils ont fait, il y a environ un an, un jeu assez bizarre, un seul épisode. Je veux dire, c'est un peu le jeu de la vie. Ils ont pris des personnalités connues du monde de la finance britannique, du monde du management, des chefs d'entreprise, et ils les ont fait venir dans une espèce de war room, une salle où en fait ils ont toute la destinée d'un pays pour un temps très limité, c'est-à-dire un jeu temps réel où le Royaume-Uni est victime d'une série d'attentats et à eux de prendre les décisions. Est-ce que par exemple il faut emprisonner tous les membres d'une nationalité, est-ce qu'il faut faire exploser un Boeing rempli de passagers en vol? C'était quelque chose qui était assez malsain, assez étonnant à voir et, je veux dire, particulièrement flippant. Là-dessus, c'est assez étonnant. Suivi d'un documentaire dans la série Panorama. Panorama, c'est une émission, je veux dire, un peu genre envoyé spécial, mais qui existe depuis les années 40. C'est-à-dire que c'est une notoriété littéralement énorme. Où, en fait, ils ont montré comment, avec trois camions, il est possible de tuer 15 000 londoniens. La diffusion de cette émission a fait un tel tollé que les responsables de la sécurité publique furent auditionnés devant le Parlement par la suite. C'est vous dire vraiment le niveau, ouais, je veux dire,
gueuler, ouais.
L'impact qu'a
cette émission.
C'est quelque chose justement qui manquerait peut-être en France de ce côté-là. Bon, on va dire que la BBC, ok, ils savent faire du populisme, du crispant et tout ce que vous voulez. Non, mais il y a quelque chose de beaucoup moins connu. La BBC, c'est une entreprise qui exporte ses programmes et qui a le gène du rire. Bah oui, si je vous dis, on en a parlé. Les Monty Python, par exemple. Ou encore, si on parle d'autres comiques comme French and Sundance, je ne sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout.
Ben Hill, mais tout début, puisque Ben Hill a commencé dans les années 60 à la BBC avant d'avoir son show sur les chaînes privées. Absolutely Fabulous, complètement trash, hardcore, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est Gros Mythe, une série d'animation pour les gamins, dont d'ailleurs le prochain film sort en octobre. Blackadder, où on revisite d'une manière absolument délirante l'histoire anglaise avec un certain Ronan Atkinson,
ouais, Mr. Bean,
voilà, justement, ou encore moins connu, une série comme The New Statesman qui est passée sur Arte, qui parodiait la vie politique anglaise d'une violence absolument énorme. Bref, rien qu'avec des noms pareils, du sport qui est en vacances, que Dieu le garde, pourrait vous en raconter des tartines. Et France Télévisions, ils ont quoi en face? Samantha, Rookier? Ouais, non, sans rien.
Et en fait, la BBC, ce serait au niveau de l'humour l'équivalent de Canal+, en fait.
Je vais dire que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, puisque Canal+, a finalement très peu produit en comparaison de la BBC, puisque la Bib produit énormément de séries en continu. Canal+, c'est juste 2-3 trucs, hein, mais qui ont tenu pas plus finalement de 3 saisons.
Ah ouais, d'accord. Mais
peut-être 4 saisons pour la série H. Et après, bon, il y a les Guignols, mais c'est un cas qui est vraiment à peur, qui est vraiment à part. Et du coup, ça a mis un tel niveau de qualité que la BBC a contaminé les autres chaînes privées comme ITV, Channel 4, Channel 5 maintenant. Et bon, il n'y a que le groupe de Rupert Murdoch, Sky, qui fait dans le populaire pour faire l'audience. Et ils arrivent à faire payer des gens là-dessus, très fort. Enfin, bref. Il y a aussi des séries qui ont une pointe d'humour, comme Doctor Who, justement une mythique série de science-fiction qui a été créée en 1956, je crois, qui est trop peu connue en France, et dont Douglas Adams, justement, fut producteur sur 2 saisons. Ou encore d'autres séries plus humoristiques, comme les Teletubbies.
Quand on parle de Doctor Who, à chaque fois, il y avait un acteur qui jouait Doctor Who, des acteurs, plein d'acteurs différents, qui ont tous fait une apparition dans la série adaptée de H2G2.
La série télé, évidemment.
Ouais.
Non, pardon, excuse-moi, il y a une erreur de prompteur. Et Teletubbies sur la question d'humour, c'est un. D'accord, voilà. Moi, j'ai mieux. J'ai une petite histoire drôle dans la grande histoire. En 1936, on autorisait les speakers de Radio Londres à ne plus être obligatoirement en smoking lorsqu'ils officiaient au micro, par respect envers l'auditeur qui se mettait en grande tenue pour écouter la radio. Mais la grande tenue restait obligatoire pour les premières émissions régulières de télévision au monde. Quand les émissions de TV furent brutalement interrompues en septembre 1939, le temps d'une petite guerre mondiale, les ingénieurs de la BBC se sont promis qu'une fois les cheveux réduits au silence, on remettrait ça. La Seconde Guerre mondiale mine les civils au premier rang. Grâce à la radio, la propagande ennemie entrait largement dans l'arrière-pays, devenant une importante arme capable de saper un pays par le moral. Face aux multiples radios allemandes aux communiqués flatteurs pour le Führer, la BBC s'imposa très tôt de ne jamais maquiller la vérité et même d'annoncer les défaites. C'est une démarche qui pourrait paraître suicidaire finalement, hein, puisque on en est encore à une guerre qui va exploser, qui ne s'est pas encore déclarée. L'Angleterre est rentrée en guerre effectivement le 3 septembre. Effectivement, le 1er septembre, c'était la Pologne qui était envahie, mais ne sera attaquée qu'à partir de juin 1940. Bref, très tôt, la BBC, la radio publique anglaise, fut une bouffée de vérité dans l'avalanche de propagande allemande, américaine et russe. Même si la démarche parut suicidaire, eh ben, elle fut payante. En 1944, George Orwell, qui, le fameux auteur du roman 1984, écrira « Je l'ai entendu sur la BBC, a une nouvelle signification, je sais que c'est vrai ». Mais les auditeurs britanniques se plaignirent des programmes de la vieille tante Bib, surnom donné parce que chiante quoi, composé essentiellement de concerts d'orgue, cantiques et annonces de la sécurité civile. On a fait quand même plus joyeux. Alors que les programmes en anglais de la propagande allemande, surnommés Lord Howe, étaient nettement plus humoristiques. Alors afin de maintenir le moral d'Albion, le gouvernement anglais fit pression pour que la radio y mette de l'humour dans son thé. La Bib devient un incroyable réservoir d'humour qui allait révéler des talents. Par exemple, Pierre Dac, Radio Paris, Mans, Radio Paris et Allemand, qui firent les beaux jours de l'après-guerre en France. Sérieux de l'information et humour britannique, la tagline n'allait jamais varier pendant 65 ans. En 1946, les programmes de la télévision reprirent comme suit. Une speakerine réinaugura l'écran en s'excusant au nom de la BBC pour cette interruption prolongée et involontaire des programmes pendant près de 7 ans. Puis, un dessin animé de Mickey, Mickey in the Bayou, je crois d'ailleurs, et ensuite un concert d'un big band. Ben, la speakerine, le dessin animé, les musiciens, c'était exactement les mêmes que ceux de la dernière soirée avant-guerre. Est-ce que ça, c'est pas de l'humour anglais? Rien que pour cette anecdote et sa mission d'indépendance, eh ben, je suis plus fan de la BBC que de l'ORTF, hein, l'Office Radio Public, Radio et Télé Publique Française. Bon, c'est pas vraiment un secret que les deux radios les plus écoutées par les animateurs de radio éphémère soient France Inter, quand même, hein, et BBC One Extra, et la radio de jeunes pour, je veux dire, la radio Black Underground de la BBC. Et on ne connaît pas tous les comiques qui officient à la BBC. Car pour la VO du film, par exemple, ils ont puisé dans le vivier actuel des pinces sans rire de tante Bib. Bib Ballet, par exemple, qui en VO joue le rôle d'un cachalot, est un ancien directeur de thèse de musicologie d'Oxford, qui décida de faire des one-man shows car il trouvait ses étudiants chiants. Son émission sur la BBC s'appelait Not in the Bollocks, pas dans les burnes. Et quand même, c'est une télé publique. Alors si ça, quand même, ça ne vaut pas le respect, entre nous, moi je trouve que... on a vraiment, c'est vrai que bon, la BBC,
des choses à apprendre.
La BBC étant en anglais, donc c'est facile d'exporter pour eux les programmes. Et en tout cas, et ben, c'est justement leur gage de qualité de production qui fait que ils ont eu une énorme importance, je vais dire, au niveau mondial. À côté, la télévision française a, de belles émissions qui étaient produites par des cinéastes et tout ça. Mais il n'y avait pas cette qualité-là, quoi. Vraiment, ce côté suivi casse-cou dans les programmes qu'ils ont toujours eu et qu'ils gardent encore, puisque récemment sur BBC World, il y a eu Tony Blair qui s'est fait massacrer en direct lors d'une interview. S'est fait massacrer en direct à propos de l'engagement de l'Angleterre en Irak. Alors que quand même, BBC World, c'est une sous-filiale de la BBC qui est financée par le ministère des Affaires étrangères. Ça, quand même, c'est la preuve d'un certain journalisme, d'un certain respect. Je ne pense pas qu'on trouve la même chose actuellement sur les télés publiques.
Il faut dire aussi que là-bas, la communication politique, c'est surtout ça, hein, c'est s'en foutre plein, se faire plein la gueule à la télé, et puis comme ça, le public a de la sympathie pour l'homme politique.
Je veux dire quand même qu'il y a une certaine retenue toute britannique et un certain flegme, mais après, bon, c'est vrai qu'on trouve toute la qualité de production, et bon, voilà quoi, c'est. C'est quelque chose d'absolument énorme. Il y a la qualité de production, les émissions, même quand ça plante et tout ça, ils ont vraiment, je veux dire, une qualité de stabilité. Enfin voilà, ouais, c'est pour nous, hein, oui, complètement. Et puis voilà quoi, c'est la BBC, c'est d'une qualité énorme.
Ah attends, hein? Attends, c'est des comptoirs de la BBC, ça, non?
Ouais, je leur ai emprunté tout l'habillage là, des infos. Eh, ça te dit pas là?
Allez, chiche.
Ouais, bon, allez, on est en direct. Là, on peut envoyer. Alors, allez, on se le joue. Les infos.
Grosse opération immobilière pour construire la rocade ouest d'Alpha du Centaure. Dans 5 minutes, la Terre va être détruite. Merci d'avoir été à notre écoute. Et maintenant, la météo.
Grosse et forte violente chaleur pendant 5 secondes en début d'après-midi, suivie d'un froid glacial et intersidéral pour l'éternité selon les prévisions les plus optimistes. Bonne journée. On va reprendre le cours normal de cette émission,
oui, c'est
je
mieux,
pense.
Oui.
Hein.
Ouais.
Et j'ai un sketch, mais je l'ai pas passé parce que justement, si vous connaissez pas le jingle en question de la BBC, vous n'auriez absolument rien compris. Donc de Bill Bailey, mais c'est vrai que c'est une institution politique et l'habillage sonore de David Lowe, je veux dire, il est vraiment différent des autres chaînes d'infos. Si vous regardez le journal de la Une, c'est toujours super inquiétant. C'est toujours super inquiétant le moindre générique. Il y a que les Américains qui ont fait une espèce de truc orchestral sur ABC, NBC. C'est un peu étrange. Tandis que la BBC, ils ont foutu une rythmique, ils ont foutu un musicien, ils ont appris aux journalistes à faire le MC véritablement, puisqu'ils parlent dans les rythmes de la mesure des paroles. C'est assez étonnant. Hein,
L'information, c'est sérieux, monsieur.
Oui, mais la manière dont ils le font, c'est tout en retenue et tout. C'est assez surprenant de ce côté-là. Ouais, comme je suis à l'AREA, c'est un peu dur hein, des fois de d'enchaîner
sur la suite.
Ah oui, ben il faut tout caler et tout ça. Enfin, tu comprends quoi. Moi, c'est du direct qu'on fait. C'est pas des trucs prémontés et tout le reste. On va peut-être parler des inspirations du Guide du Routard Galactique, puisque donc c'est une espèce de parodie de tout ce qu'il y a en science-fiction, absolument énorme. Oh, tu sais quoi? On va passer des petits enfants du Guide du Routard Galactique en radio, à savoir les copains qu'on aime bien, c'est le Survivor. Et la bande-annonce, bah, c'est justement tout est inspiré.
Attention, cette bande-annonce n'a ni queue ni tête. Les rescapés du Survivor. Vous avez aimé Star Wars. Vous avez adoré Star Trek.
Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps BDF0A79. 6E. 144-41-D7. F9-49-6ABF.
Hé, capitaine, il a coulé mon Enterprise.
Vous avez rêvé devant Stargate.
C'est toi qui as les clés?
Non, elles étaient sur la table de la cuisine.
Ah, on va sonner, c'est pas grave.
Tu te débrouillais mieux dans MacGyver.
Ça, c'est sûr.
Vous êtes bien marré devant Star Academy.
Mais c'est l'émission Castaldi, ça?
Mais non, c'est l'émission où les gens ils apprennent à chanter.
On va peut-être arrêter là parce que c'est le massacre. Mais ça vous dit bien justement un peu tout l'esprit quoi de du guide du retard galactique, toutes les adaptations et tout ça, et vraiment le côté sans queue ni tête. À tel point que on pouvait se poser la question, est-ce que la série était traduisible ou non ? Eh ben figurez-vous que oui. La série, elle est traduisible grâce à une personne qui est très talentueuse, qui s'appelle Jean Bonnefoy, ou qui est d'ailleurs le traducteur aussi bien, je vais dire, de Tom Clancy, c'est aussi le traducteur du Cryptonomicon. Il aime bien en général les histoires qui sont un peu complexes, qui sont bien amenés et tout ça, et c'est plutôt quelqu'un de talentueux. Là, il a changé les noms, carrément, pour qu'on comprenne mieux certains jeux de mots. C'est vrai que si je vous dis « The Flows Will Be Through », vous aurez peut-être compris que... mais si je vous le dis dans la traduction française, il s'agit de « Zappy BBC ». Là, on comprend peut-être un peu mieux la blague. Le personnage principal, c'est Arthur Dent, et dans la version française, c'est Arthur Accro. Son copain est devenu Ford Escort, ce qui a entraîné de drôles de séquelles d'ailleurs entre les voitures. Le fameux ingénieur des travaux publics s'appelle Salut les gars, Vaughan Steer, et plein d'autres jeux de mots comme ça qui disparaîtront de la version française du roman, puisque donc ils ont décidé de s'accorder par rapport au film, donc ils vont remettre les noms originaux. C'est peut-être un peu dommage, il y en a qui disent ben c'est pas trop tôt parce que Jean Bonnefoy il en fait un peu trop dans la traduction française et des fois on comprend pas tout. Mais bon, tout ça, ben ça vaut pas un bon verre d'arrache boyau pan galactique dont les sensations seraient équivalentes au passage entre le cervelet et la boîte crânienne d'une truelle dorée à leur fin.
Oula.
Ce qui paraît, ils en sont fans. Hein. Pour info d'ailleurs, dans la version française, sachez que la première couverture pour Présence du Futur, la première édition de La Vie, l'Univers et le Reste, la couverture est dessinée par Gottlieb, s'il vous plaît, qui nous fait une superbe tête de Marvin, absolument, je vais dire, déprimante, il n'y a pas d'autre terme. Bref, c'est un collector absolu, et puis voilà. D'un autre côté, je vous ai dit que le bouquin n'avait pas arrêté de changer de nom en français. Puisque le guide du routard, il s'appelle The Hitchhiker Guide to the Galaxy, ce qui pouvait se traduire tout simplement le guide du routard galactique. Bon, gros problème, c'est qu'il y a le guide du routard. Le mec qui fait le baba cool comme ça, tu vois, en 68, je pars avec mon baluchon et je décide de faire un guide sur comment vivre pour 3 francs 6 sous à l'étranger. Et en fait, le mec, il dit ce petit roman là, c'est du piratage là, de ma propriété intellectuelle, vous me changez le nom là. Donc en 89, Présence du Futur change de nom en Le Routard Galactique. Gros problème, c'est pas le guide qui posait problème.
C'est le mot routard.
Oui, parce que le mot routard, il est déposé depuis 75, donc par ces espèces de petits hippies en pâte d'eff et surtout avec un gros cigare sur la bouche d'importation cubaine qui roule ça sur les aisselles de... Pardon, excusez-moi. Ce qui fait que c'est devenu le guide galactique en 99, mais que le nom vient de changer pour le guide du voyageur galactique H2G2. Et encore, on a évité... Le guide de l'autostoppeur pour la galaxie qui était proposé par l'avocat de Hachette pour les avocats de... Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Comme quoi, méfiez-vous des 68 heures des mecs qui, dans les émissions de Stéphane Collaro, font un cool. N'importe quoi, bref. Enfin, j'ai été bien beau d'utiliser l'habillage de notre radio, mais j'ai oublié de dire que vous étiez sur Radio FMR qui est 13h08 dans Supplément Week-end. Il n'y a pas du sport. La destruction du monde n'a pas eu lieu dans les 5 minutes, comme annoncé.
Déprimant.
Ouais, ça c'est. Enfin bon, c'est déplorable. On va peut-être se changer les idées là. We'll be right back. Orange, c'était un album, l'unique album qu'ils ont fait en 1996, album éponyme, donc voilà, je vais y arriver.
Éponyme.
Et je pense que l'ultra orange, c'était la couleur officielle d'Éphémère. Hein. Et encore, comme quoi. Ah bon. Finir de rire peut-être. On va parler un peu de ce que c'est qu'une adaptation cinématographique à peu près réussie. Puisque adapté en film, un roman, une série ou une bande dessinée, c'est surtout quand même une catastrophe annoncée, parce que c'est quand même pas évident d'un truc qui passe complètement par l'imagination, je vais y revenir tout à l'heure, montrer ça en image, et surtout quand c'est un grand studio américain qui est derrière. Est-ce que vous connaissez une seule adaptation parfaite d'un roman, par exemple?
Parfaite.
Allez Thomas, j'en ai une en tête. Je cherche bien.
Blade Runner.
Même pas. Même pas le roman, la nouvelle à l'origine est une bouse.
Ah, donc il faut que les deux soient géniaux, c'est ça?
Oui.
Bon, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, la trilogie.
Même pas, ils ont adapté plein de trucs.
Ouais, vas-y, je sais pas.
Tout simplement le tombeau des Lucioles. Hein, qui adapte parfaitement, c'est l'adaptation la plus précise du roman, du moins pour la première partie. Puisque la deuxième partie, ils ont arrêté là, ça devenait vraiment très glauque.
J'en ai une autre, moi, je te cherche des noises. Ghost in the Shell 1.
Lolala. Ah non, non, au contraire, moi je trouve que ça correspond pas vraiment à l'esprit. Hein. Enfin, bref, coup de bol dans H2G2, le film. Tout est gardé, l'humour british, les situations sans queue ni tête et autrement improbables. Grâce à un générateur d'improbabilité, dont on parlera tout à l'heure, un Arthur Dent parfaitement quelconque, alors parfaitement, hein, il correspond. Trill, aux yeux superbes.
Trill, c'est parti.
Si ton numéro de téléphone est une exponentielle de 2, je les essaierai toutes s'il le faut. Ford, étonnant. Étonnant dans le rôle et parfaitement réussi, hein. Moi en tout cas j'en suis absolument fan. Zappy en président de la galaxie, absolument superbe.
Ouais. Mais il est cabotin, mais juste ce qu'il faut.
Ouais, c'est exactement ça. Et le plus étonnant, il est dans le personnage, littéralement.
Ouais, c'est clair.
Jusque dans la garde-robe.
Ouais, tu sais que c'est lui qui a créé sa garde-robe, qui l'a composée. Et d'ailleurs, j'ai une interview sous les yeux de Sam Rockwell dans le numéro de Score dont j'ai parlé la semaine dernière, celui avec Brad Pitt et les femmes à poil en couverture. Et la question, c'est par rapport au look de votre personnage dans le guide du voyageur galactique, qui répond: pour composer physiquement mon personnage, j'ai essayé de me rappeler quels étaient les looks les plus ringards chez les chanteurs et les acteurs. Finalement, j'ai marié celui de surfeur frimeur de Brad Pitt dans Légende d'automne à celui de Freddie Mercury. Je ne ferai ni du surf ni des tubes. Voilà.
Bon, d'accord, ok.
Et c'est vrai qu'il est franchement ridicule.
Ouais, non, mais il est à la fois ridicule. Moi, je trouve que quand même, il a la classe. Hein.
Ouais, dans son genre. Ouais.
Et il fait tomber la plus belle fille.
Oui, mais ouais. On va essayer d'éviter de spoiler le film. Voilà.
Oh,
et sinon, je sais pas si t'as vu, mais il y a des bonnes critiques dans l'ensemble de la presse.
Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est que vraiment, il a, pour un film qui est mal vendu, moi je trouve, il est bien réussi. Bref. Quant à Marvin, le fameux robot, une interprétation subtile, les lignes d'Apple et le mode de pensée Microsoft. Si vous êtes déprimant, j'ai plutôt envie de rebooter plutôt que faire ce que vous me demandez. Bref, on n'ose même plus y demander quoi que ce soit tellement il est superbe. Il est super. Il n'y a pas à dire, il ne faut pas y jeter. Je dois dire, si vous connaissez le guide du retard galactique ou non, ben le film est une excellente entrée en matière parce qu'il est vraiment très bien. Il y a juste une faute de goût à la fin, mais ça on en parlera hors antenne, hein, sinon on va trop en dire.
D'accord.
Faut dire que les producteurs, c'est pas n'importe qui. En producteur, on retrouve, et ça c'est depuis le vivant de Douglas Adams qui est décédé en 2001 et qui donc n'a pas vu la moindre image, le moindre décor, figurez-vous que c'est Hanson Creatures. Mais oui, Jim Hanson, vous savez qui c'est? Oh, les mecs qui faisaient le Muppet Show, le Fraggle Rock, et puis Fraggle Rock, ça c'est Fraggle Rock, et aussi des films comme Dark Crystal par exemple. Et bien, toutes ces grosses créatures, Marvin, c'est pas de la 3D, c'est du vrai volume, des trucs qui existent en vrai là. Des trucs.
Ouais.
Des trucs qu'on peut toucher, il faut pas trop toucher au pied micro.
Ouais, en fait, c'est un petit acteur nain qu'ils ont pris, Warwick Davis, pour être dans la coque, la petite coquille du petit robot.
Voilà,
Xavier a son micro coupé.
Je vais y arriver. Même les créatures, c'est-à-dire même les Vogons, ce sont des vrais, etc. C'est assez étonnant,
ouais.
C'est très bien fait. Rien que pour ça, respect, parce que ça donne quelque chose indéniablement que quelque chose n'a pas. C'est assez étonnant. Et en plus, il y a des accents à la Terry Gilliam dans le film. Dans certaines scènes, c'est étonnant.
Ouais. Alors là, par contre, c'est le moment où j'apporte mon bémol à moi.
Allez, vas-y.
J'ai plus l'impression que c'est, hormis le fait que ce soit plus des enchaînements de sketch que les scénarios, qu'un scénario vraiment abouti. Donc ça,
mais ça, c'est le roman.
Ouais. Donc justement, je passerai dessus. Mais par contre. À part les passages extraits du guide galactique où il y a les illustrations, les animations faites sur Flash qui sont vraiment géniales, j'ai trouvé que le film n'exploite pas forcément les possibilités de gags qu'offre le cinéma. Au contraire, justement, des Monty Python. Par exemple, souviens-toi du rush de Lancelot dans Sacré Graal, il leur finit pas de démarrer de 3 km pour aller faire son rush sur le château. et après, les Monty Python, ils jouent justement sur le cut, et puis là, on aperçoit donc qu'un solo juste à côté des gardes pour les enfourcher, bah là il y a pas de des idées comme ça qui exploitent.
Enfin les idées viennent plutôt de la narration qui ouais. en fait est dans le bouquin ouais. ou dans le roman radio.
C'est un scénario filmé, voilà.
Ouais, c'est un peu. Enfin ça manque un peu.
Mais bon, le scénario est tellement comporte tellement de gags qui font bouche que finalement c'est moins gênant que si le scénario était plus faible finalement. Mais bon, moi c'est mon petit bémol. Là. Rien n'est parfait.
T'as pensé à ta serviette ?
Ouais, je l'ai là. Pourquoi ?
Ah ouais, excuse-moi, je l'avais pas vue, elle était quand même... Non, mais c'est vrai, en plus... On a nos serviettes ?
Ouais, ouais.
Et depuis tout à l'heure, je transpire comme un âne. Et c'est bien pratique, une serviette. D'ailleurs, dans le roman, il vaut mieux toujours avoir une serviette avec soi. Et... Ah, punaise. Ne serait-ce que pour essayer de caler un pied de micro particulièrement récalcitrant, hein, comme quoi. Et si
vous ne croyez pas qu'on a nos serviettes, on publiera les photos sur ton site, sur le site de l'émission.
Ouais, d'accord, ok, chiche. On le montrera. Bref, avoir une serviette éponge, ben, c'est très utile. Par exemple, bon, vous allez voir H2G2 au cinéma et il pleut à verse comme aujourd'hui. Ben, vous êtes contente de vous sécher les cheveux, hein, Thomas ?
Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on est allé, il faisait enfin, orage.
Moi, je lui ai dit, viens avec ta serviette. Tu m'as dit, mais c'est ridicule. Et puis le copain qui est venu après, Vric, lui, il a dit, ah ben, je serais content d'amener ma serviette, tiens. Et... enfin, bref, supposons que toutes vos fringues sont brutalement téléportées dans une dimension parallèle, au hasard. Ah ben, la serviette peut faire office de cache-sexe. La serviette peut aussi servir de matelas d'appoint sur une plage des Maldives. De baluchon improvisé dans la guerre des boutons. Ah ben oui, mais si j'en pense, j'en serais pas venu. Hein. De toches de sénateur romain dans Ben Hur. Et pour vous montrer le pouvoir supérieur d'une serviette, et qu'il vaut mieux savoir toujours où c'est qu'elle est, sachez que humide et même complètement gorgée d'eau, eh ben elle est capable d'éteindre un incendie de friteuse rien qu'en la posant. Alors attention, il faut la poser en la tenant vers soi et en la poussant vers la friteuse, pas en la tirant, sinon vous prenez les flammes sur la gueule. Ben faut dire aussi que c'est très utile à savoir quand 80% des incendies chez les particuliers sont dus aux incendies de friteuses. Ben oui, que voulez-vous, les friteuses sont pas des fois très mal éduquées et voilà, donc on a toujours besoin d'une friteuse.
Tu veux dire que c'est pour ça que tu m'as demandé d'amener une serviette au cinéma, au cas où il y aurait une friteuse qui explose ?
Ben, au cas où il y avait un hanneton de tronc qui s'attaque à nous, parce qu'on le voit dans le film que ça peut être utile. C'est très court, mais ça sert. Hein, comme... enfin, bon.
Ben, si tu veux.
Bon, enfin, bon, on a parlé du roman, on a parlé vaguement, en fait, du côté indispensable du roman, de l'univers, pour comprendre l'informatique aujourd'hui. Ah ben ouais, ça peut sembler étonnant, mais c'est une œuvre de fiction qui a une importance, je veux dire, primordiale sur Internet. Bon, pas complètement primordiale, mais disons que sans elle, je crois qu'il y aurait bien des choses qui vous paraîtraient parfaitement fades. Ou peut-être que si vous ne connaissez pas le roman, peut-être qu'il y a des sketchs récurrents d'Internet que des millions de personnes font tous les jours que vous ne comprenez absolument pas. Bon alors, l'exemple le plus simple, c'est le concept du guide du routard galactique lui-même. C'est un PDA, c'est-à-dire un assistant palmaire, Palm Pilot, Windows Pocket, etc. Et le système de navigation en hypertexte. Donc en fait, le principe du web qui ont été décrits pratiquement 15 ans avant leur création. Quoi. Il y a aussi le poisson de Babel. Que l'on se met pour comprendre toutes les langues connues, et ben figurez-vous que Babelfish, c'est le premier service de traduction simultanée du web. Babelfish sur AltaVista, et ben c'est un service qui existe depuis 96, et lors de la mort de Douglas Adams en 2001, et ben la page était en noir. 42, merci pour tout poisson, générateur d'improbabilité, et ben tout ça, c'est ça se retrouve régulièrement dans l'informatique. Vous allez sur n'importe quel site d'informatique assez obscur, etc. Vous lancez 42, il y a des gens qui vont sortir des phrases du style 6x9, ou le nombre de chemins que l'on peut prendre dans la vie, etc. Et vous vous dites, mais c'est quoi ces délires? Et oui, ben tout ça, c'est vraiment la preuve de l'impact que ça a eu. Il a été tellement visionnaire, Douglas Adams, qu'il a tenu la rubrique dans plusieurs magazines informatiques réputés dans les années 80 avec une plume rigolotement acérée. Pour ceux qui, justement, ont ces magazines des années 80 qui étaient publiés en Angleterre, c'est vraiment une mine d'or. Et moi-même, je dois dire, je me les suis procurés. On les trouve maintenant sur le net. C'est du bonheur en barre. C'est-à-dire, pour peu que vous y connaissez un peu en informatique, dans le métro, vous plissez dessus de rire tellement que c'est bien écrit. Et en 1997, sur proposition de Douglas Adams, eh bien, la BBC a créé sur son site web, le H2G2. C'est la première encyclopédie collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer un article sur un terme quelconque, l'usage d'un film de Godard dans une réunion de gamins, de maternelle, ou encore plein d'autres choses. Vous pouvez le décrire plus ou moins sérieusement, mais vous pouvez le faire, et d'autres personnes vont le réviser avec vous, voire même vous-même, vous pouvez corriger un article. Et ceci, c'était bien avant Wikipédia, l'encyclopédie collaborative la plus connue au monde. Et en dehors des geeks, vous allez me dire, parce que c'est bien beau l'informatique, mais quand on y connaît rien, bah figurez-vous que l'album de Radiohead, dernier album connu, Paranoid Android, et ben c'est ni plus ni moins qu'en référence à Marvin.
Ah.
Et oui. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais je suis un gros geek et je décide de partir moi aussi à l'autre bout de la galaxie, comme ça, je vais prendre un téléphone portable. Oh, c'est pas très utile à l'autre bout de la galaxie. D'abord à cause du prix du roaming. C'est-à-dire le prix d'un appel à partir de l'étranger, et je peux vous dire, déjà quand vous partez à l'étranger, vous trouvez des fois que votre opérateur vous surfacture bien. Mais alors, quand moi je suis parti à Alpha du Centaure pour 2 mois, Bouygues ne m'a pas lopé sur la facture téléphonique. Bref, c'est bien beau d'avoir un téléphone sur soi, mais une fois que la Terre a explosé, qui c'est que vous allez appeler? Bon, par contre, avant que les ordinateurs de la BBC ne soient transformés en lumière et en chaleur, sachez qu'on peut consulter via le WAP le H2G2 dont je parlais, l'encyclopédie collaborative. Si, si. Bon, alors, je vais faire simple. Hein. Pour aller plus vite dans l'URL, vous tapez dascritch.net. Vous allez sur mon site. Il y a une entrée marquée Link. Vous allez dans les guides et vous allez sur H2G2. Bon, c'est en anglais, mais c'était la première encyclopédie collaborative. Et justement, quoi, elle est consultable comme ça et c'est vraiment du bonheur en barre. Et si je l'avoue sur mon site, c'est que des fois, je m'en sers. Ça a toujours besoin d'un petit guide sous la main, parfois au resto, pour moucher un camarade. Il est 13h27 sur Radio FMR.
Ah.
Ouais, tu peux la noter celle-là. En plus, on va battre le record de débordage d'antenne puisque du sport n'est pas là. Et que c'est une spéciale guide du routard galactique, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Hacker, informatique.
Ouais. Pardon.
Je vous jure qu'on est mal entouré. Bon, attends, je refais l'intro alors. Et on va parler de radio.
Ah ben voilà, quand tu veux.
Bon, parce que j'avais expliqué donc qu'il y avait une série télé live du Guide du Retard Galactique produit par Adams pour la BBC, à oublier impérativement, parce que voilà, hein, Neil Gaiman dans Pas de Panique explique que ça a été la galère à tourner et que ça se voit à l'écran à cause des moyens. Il y a aussi un jeu d'aventure sur ordinateur, mais bon, les cartes vidéo étant ce qu'elles étaient à l'époque sur les ordinateurs des débuts des années 80, on va rester pudique, quoi. Il y a eu les romans, la fameuse trilogie en 5 tomes, mais bon, qui lit encore un bouquin à l'heure de Friends en quotidienne sur la 2. Mais avant tout, H2G2 fut un feuilleton radio. La radio, eh ben, c'est un média qui peut jouer sur votre imaginaire. C'est même celui avec lequel je peux le mieux titiller votre esprit. Je sais de quoi je parle. Je suis chroniqueur BD, je suis blogueur sur le web, j'ai fait 60, j'ai recompté. J'ai fait 60 émissions de télévision que j'ai présentées, de tout ce que j'ai manipulé comme média, la radio, hein, ça fait pratiquement 15 ans que j'en fais. Et ben, c'est celui où on peut mettre en scène un cachalot très étonné et un pot de pétunia qui font un vol plané ensemble de 10 000 mètres de haut pour un coût totalement dérisoire. Et. Oh non. Encore. Voilà, vous avez entendu ? Thomas est hilar. C'est pas seulement à cause du ridicule de la situation. Thomas n'est pas qu'un critique de bas étage. C'est un réalisateur de films expérimentaux. Ouais, primé dans des festivals internationaux, s'il vous plaît, et pas qu'en France, hein. Il sait ce que c'est que créer sur un support audiovisuel. Enfin, je suppose que maintenant, au bout de 38 émissions ensemble, tu es d'accord pour dire que c'est un média où tout paraît incroyablement simple. Enfin, je sais pas, quelque chose où, pour mettre en scène quelque chose, on peut se la jouer, ce site B2000, pour trois fois rien. Enfin, la radio bien exploitée, ça peut donner quelque chose comme un Québécois fou, hein, François Pérusse par exemple. Tenez, écoutez ça.
Alors Scully, est-ce que ça vous rend un peu moins sceptique ?
Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Nous sommes dans un bar d'extraterrestres.
Vous désirez boire quelque chose ?
Oui, bien sûr. Vous avez du vin blanc, du Sauterne ?
Non, mais on a du Saturne.
Bon, je vais prendre une Maretsu.
On n'a pas de Maretsu.
Ah bon ?
Ici, on n'a que la bière de la Voie Lactée.
Bon, et bien.
C'est la Voie Lactée Sous.
Je vais en prendre une.
Un, deux.
Tiens.
Bonsoir.
On dirait qu'il y a un spectacle.
Alors la première chanson est un classique, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Alors voici à peu près ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 3, 4. T'as voulu voir Vénus et on a vu Vénus. T'as voulu voir Pluton et on a vu Pluton. On est passé sur Terre et on a vu des cons. On a vu Jupiter et Vita Tantrison. On est à des années-lumière de la maison. Et dans une soucoupe on a tourné en rond. Comme toujours. Mais je te le dis, allez chauffe truche de gnu. Je n'irai
pas plus loin.
Allez foutons le camp.
Je n'irai pas sur Mercure.
Ouais, j'ai emprunté un sketch de François Pérusse parce que, à mon sens, justement, c'est la preuve de ce que c'est que la radio. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il fait les orchestrations, toutes les voix, le mixage, etc. Et il arrive à faire, à se la jouer Cécile B2000 pour trois fois rien. Bon, pas Cécile B2000, excusez-moi, mais se la jouer.
Roger Corman ?
Non, là je parlais des X-Files, mais bon, tant pis, enfin bon. Bref, pour chaque version de son guide, Douglas Adams a changé les éléments de scénario pour utiliser différemment le média. Et résultat, ça donne des trucs comme la radio, enfin, la première saison radio, puisque la BBC est en train de produire une nouvelle version du guide, en ce moment, qui est diffusée sur Radio 4.
Ça, je savais pas.
Le roman, la série télé, le jeu vidéo, à chaque fois, il y a des éléments qui ont été rajoutés, d'autres qui ont été supprimés, des trucs qui ont changé, même si la trame générale est à peu près identique. Douglas Adams, c'était un furieux, un allumé qui produisait. Des fois, il décrivait son script pendant qu'ils étaient en train d'enregistrer. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors moi, j'ai un conseil à donner à l'heure du montage numérique, quand même, à tous les monteurs. Si vous êtes monteur de télévision ou de radio et que vous avez sur le dos une espèce d'allumé qui vous dit, tu peux rajouter ça ? Ouais. Et puis ça va être plus drôle. Le montage numérique vient à votre secours. Vous pouvez répliquer des phrases comme, y a pas assez de RAM, y a pas assez de disque dur.
On va planter.
Ça va être trop long à calculer. La mise à jour va merder. Y a pas assez de pistes. Bon, par contre, si le gars est un peu futé et qu'il connaît la technique, il va vous dire des conneries du genre, calcule une partie des pistes en fond et là vous avez l'air vraiment con. Oui, c'est vécu si tu veux savoir, Thomas.
Oh. Moi en vidéo, je l'ai vécu aussi. Hein.
Ah ouais, mais tu sais qu'il y a un réalisateur que j'ai fait craquer comme ça. Eh bien Thomas, je crois qu'on a fait le tour dans cette émission numéro 38.
Ah oh, mais merde.
Oui, mais j'aurais aimé moi aussi, mais bon, c'était pas trop le cas. C'était une spécialité pour le supplément week-end, c'est la dernière spécialité, hein, parce que vous allez voir qu'on a un programme qui va être super chargé pour la rentrée. Et elle n'était pas dans le script, ce sketch.
Eh non.
Ah,
comme quoi on fait des sketchs qu'ils n'ont pas préparés.
Ouais, des fois on fait des trucs en live. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais tu fais bien de noter, Thomas. Parce que si vous avez manqué le début de l'émission, voici le résumé.
Eh bien, on a fait une énorme erreur dans l'émission, c'est qu'on a annoncé la destruction de la Terre qui n'a pas eu lieu. Et là, c'est la déception totale.
Ouais, là, franchement, déçu.
Ouais. On a eu une erreur d'horaire aussi.
Une seule. Et pas au plus critique, je veux dire.
Ouais. Et puis, on a eu un sketch pas préparé. Ça, c'est très fort.
Tu oublies aussi l'emprunt donc à David Lowe, qui est donc le metteur en son des infos de la BBC. Voilà, ça a pas pu s'empêcher. Elle est dans le. J'ose pas la sortir, le remix de la BBC, on passera la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, justement.
Il n'y aura pas de supplément week-end.
Hélas, non, puisque moi je ne sais. Ou peut-être qu'il y aura, hein, si le foot, si tu arrives à convaincre du sport. Hein, moi j'invite les auditeurs à rester à l'écoute à partir de midi pile sur Radio FMR, ou sinon en différé sur le site, en podcast, dascritch.net, dascritch.net. Oh, c'est trop compliqué. Bon, c'est très simple. Vous prenez Google, vous mettez entre guillemets The Meaning of Life Universe and the Rest, et ça vous répond
42.
Non, en fait, c'est pas ça qu'il faut mettre. Vous mettez entre guillemets supplément week-end, vous mettez un espace, vous mettez MP3, vous mettez un autre espace, vous mettez FMR. Et là, vous tombez sur le podcast de l'émission. Donc, si en plus vous avez le dernier truc d'un.
iTunes.
Non, parce que Douglas Adams, il fait assez la pub hein, pour le fabricant. Donc, faut se calmer. Hein. Donc, peut-être que vous pourrez vous abonner, écouter les précédentes émissions, puisque les 37 précédentes sont en ligne aussi, avec celle-ci à partir de ce soir, hein, pour ceux qui nous écoutent en direct et qui nous écoutent sur FMR. Ben, figurez-vous que sur FMR, vous allez entendre. Ceci d'ici quelques secondes, à 15h du reggae pour Yaka Rouler, 17h vie d'ordure, c'est du punk, à 20h les hétéro expérience et de l'électro bizarroïde, disco carboïde, et à 21h30 Liquid Sky, c'est tout aussi bisso.
Tu veux dire que l'annulation de ces émissions a été annulée?
Je crains bien, malheureusement, c'est un peu triste. Mais bon.
Tu crois qu'on a abusé du 42 aujourd'hui?
Je crois qu'il y en a qui doivent en avoir un peu marre quoi, de ce sketch, ça commence à leur peser lourd.
Et franchement, si vous venez sur le site de l'émission, vous pouvez essayer de compter combien il y a de 42 dans l'émission.
Ah oui, à mon avis, il va falloir qu'il écoute et tout ce que tu veux, quoi. C'est... Enfin bon, il n'y a pas d'autre terme. Allez, ciao, see you, bye, et rendez-vous pour moi dans 15 jours avec une spéciale Apple Seed, rentrée télé et rentrée littéraire.
Bon week-end sous la pluie.
Ciao.
Et n'oubliez pas votre
serviette.
Non, Nagui disait brosse à dents.